Soge kanya firi bolola kaya la.
Muso kafo,
kau wale nyuma don.
Muso kafo,
kau bonya dunya so. Muso tafe ya tina wale nyuma
Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir dans le cadre de cette émission des Nouvelles d'ici et d'ailleurs, quelqu'un que vous connaissez bien, vous l'entendez régulièrement depuis plusieurs années sur Radio Grand Ciel, mais il y a plein de choses que vous ignorez sur lui et que moi aussi j'ignore encore, mais je pense que j'en saurai un peu plus d'ici une demi-heure, puisque nous allons passer une demi-heure avec Gabriel Seban.
Oui, bonjour.
Bonjour, qui évidemment intervient dans l'émission Point de vue depuis pas mal de temps, mais qui est ici pour nous parler déjà du livre qu'il vient d'écrire, qu'il vient de publier, Les Caroubes de Mostaganem chez l'Harmattan. C'est un livre qui revient, enfin c'est un roman, mais c'est un livre qui nous dit beaucoup de vous, Gabriel, puisqu'il relate votre enfance en Algérie à Mostaganem. Alors on va peut-être situer Mostaganem, ça se trouve où exactement, en Algérie à peu près?
Alors, Mostaganem se trouve entre Oran et Alger. Oran qui est, par rapport à Alger, plus proche de la frontière marocaine. Alger plus près de la frontière tunisienne. Et c'est une ville moyenne en termes de nombre d'habitants qui est pratiquement à, on va dire, une bonne centaine de kilomètres d'Oran.
C'est voilà. Une ville quand même assez importante, j'imagine.
Alors, c'est une ville qui était initialement une ville de garnison et qui s'est progressivement tournée. Je parle dans les années auxquelles correspond mon roman, et qui s'est progressivement tournée vers un développement économique marqué, accéléré, parce qu'en fait, l'économie locale qui avait effectivement comme point d'appui des ressources naturelles, mais aussi le vignoble, s'est servi du port de Mostaganem à proximité pour pouvoir à la fois desservir l'Afrique de l'Ouest par des excédents d'huile, par exemple, mais aussi la métropole et le sud de l'Europe, je pense en particulier à la Sicile, à l'Italie, et bien sûr la France, la France qui restait en fait un redistributeur de ce qui était effectivement produit.
Une ville portuaire, c'est évidemment une ville d'échange. Ça ne m'étonne pas finalement que vous soyez né dans une ville portuaire parce que vous aimez l'échange. Vous vous définissez vous-même comme un humaniste. C'est très important, vous le dites très souvent. Mais on va partir, on va voyager aujourd'hui, on va remonter à votre enfance. Vous appartenez à ce qu'on peut appeler donc la communauté juive d'Algérie. Avant de faire cette émission, vous m'aviez dit, attention, il ne faut pas tout confondre. Même si vous êtes parti en 1962, vous n'êtes pas ce qu'on appelle un pied noir.
Si, je suis un pied noir, complètement. Je suis un pied noir rapatrié d'Algérie. Par contre, rentrer dans la définition, finalement, par le côté religieux, me gêne un petit peu parce qu'en fait, j'ai pris vraiment ma distance par rapport à ma religion, mais par rapport à toutes les religions. Et autant, et vous le voyez avec Radio Grand Ciel, autant je suis ouvert et tolérant totalement à l'expression religieuse, quelle qu'elle soit, pour autant qu'elle soit respectueuse, bien entendu, autant je me positionne comme un humaniste, vous l'avez dit, et quelqu'un qui a une conscience aiguë de la place de chacun dans la société, parce que cette société-là, souvent dans ses fonctionnements, dans ses intérêts, j'ose pas dire dans sa finalité, mais on pourrait en discuter, la société nous pousse à rester à notre place plutôt qu'à prendre une place plus constructive et plus cohérente entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons donner.
Alors vous êtes parti d'Algérie donc en 1962 avec tant de rapatriés, à l'âge vous avez plus de 12 ans, donc vous avez quand même vécu une toute votre enfance et une toute petite partie de votre adolescence en Algérie au moment de ce qu'on appelait les événements. En fait, c'était bien une guerre, faut être clair. Ouais. Moi, je veux savoir, parlons peut-être de vos parents d'abord. Qui étaient vos parents? Que faisaient-ils? Et comment avez-vous vécu enfant?
Alors, mes parents étaient des gens extrêmement modestes. Ils étaient modestes, on va pas peser plus qu'il ne faut, très dignes. Ma mère employée d'assurance, mon père employé de banque, à la compagnie algérienne précisément, qui était une banque française. La caractéristique de ce couple de parental qui m'a donné naissance, c'est qu'il reflétait deux critères importants. Mon père avait fait la guerre de 40 et en était revenu extrêmement marqué. J'ai d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, reproduit un certain nombre de choses personnelles, mais retraduites, bien sûr, par le roman, à travers le texte et le récit que je fais. Mais ceci en fait partie. La caractéristique de mes parents était qu'il fallait vraiment mettre toute sa capacité d'adaptation à se conformer. Parce qu'ils avaient compris, bien que, comment dire, étant bien intégrés, nous faisions partie de la communauté française reconnue comme telle depuis le décret Crémieux, qui avait institué effectivement que les Juifs d'Algérie étaient Français à part entière, même si notre provenance, en ce qui concerne notre famille, était probablement, parce que c'est difficile à situer, mais probablement l'Espagne. Nous avions besoin de montrer toute la volonté que nous avions d'être à la fois des citoyens positifs et des personnes qui s'intégraient bien à une communauté, tout simplement. Hein. Et cette communauté n'était pas la communauté juive, bien entendu.
Mais on parle bien de la communauté française, nationale.
La communauté française. Et dans ce sens-là, je pense que cette qualité, cette priorité d'adaptation, je l'ai réinjectée à la fois dans mon intégration sociale personnelle lorsque je suis arrivé en France, mais également dans les groupes de travail ou de projets desquels je fais partie.
Est-ce qu'il y avait la peur d'être juif? On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale tout de même, hein. On sait ce qui est arrivé aux Juifs d'Europe pendant cette période. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience qu'il était dangereux d'être juif?
Par rapport au terrorisme, le terrorisme visait vraiment n'importe qui. On en sait quelque chose maintenant en France, non pas par les Félagas, mais par les musulmans intégristes et terroristes qui agissent sur le sol. Donc, il n'y avait pas la peur particulière d'être visé spécifiquement, si c'est bien la question que vous posiez.
C'était en fait par rapport à ce qui était arrivé aux Juifs d'Europe et à la Shoah. Est-ce que par exemple on en parlait? Est-ce qu'on en avait connaissance chez les Juifs d'Algérie?
Bien sûr. D'autant que dans ma famille il y a eu des victimes de cet état de non-respect de la vie. Donc, et moi, je pense que j'ai été marqué très tôt par les récits que m'ont fait mes parents de cet état. Peut-être même maladroitement, parce que je me revois dès mes premiers souvenirs entendre des récits répétitifs relatifs à cette extermination. Oui. Donc, à la fois, j'en avais peur, et à la fois, ma nature s'en est trouvée plus angoissée. C'est clair. Maintenant, le paradoxe vraiment que je trouve chez mes parents, c'est que cette adaptation dont ils ont voulu, effectivement, être des étendards, les a fait, défendre par leurs idées l'Algérie française, voire même, non pas souscrire, mais implicitement dans une position presque schizophrénique, défendre l'OAS. Oui. L'OAS qui était finalement un carteron généraux, hein, pour reprendre l'expression, qui n'avaient rien de la nuance et qui étaient plutôt à l'extrême droite, et dont certaines personnes se sont retrouvés comme leaders d'une extrême droite véhémente.
Je suppose que l'envie, c'était de rester aussi, j'imaginais, parce que est-ce qu'on se sent, quand on est un enfant comme vous, donc né en Algérie, mais de nationalité française, on se sent français, on se sent algérien, on se sent les deux?
Là, il n'y a aucune ambiguïté. Ouais. Je me sens, et je me suis toujours senti français, ouais, de fond. Maintenant, si toutefois il y avait un état d'âme, c'est sur la légitimité du français né en Algérie de revendiquer une partie de cette terre natale, ouais, qui était une terre natale algérienne, certes, mais algérienne française. Ouais. Il faut arriver à faire la part des choses entre qu'on a aimé dans cette terre et ce pourquoi on l'a aimé.
Ouais.
Voilà.
Vous l'avez aimé passionnément, enfant?
Ah oui, absolument. Alors là, je vais peut-être faire rêver certaines personnes, mais bon, l'Algérie était un pays avec un climat très très privilégié. À Mostaganem, il y avait le port, puis sur la bande littorale, à quelques kilomètres, il y avait les plages, des plages splendides, hein. Il y avait la plage des Sablettes, de la Salamandre, les criques dans lesquels on pouvait facilement s'isoler pour il y avait une qualité de loisirs, ne serait-ce que pour ceux qui aimaient l'eau, qui était, on peut l'imaginer, ouais, appréciable.
On ne saurait trop conseiller la lecture aussi de Noces de Camus, qui revient
tout
un peu
fait,
sur cette
tout à fait.
Qui est très beau. Vous avez grandi, j'imagine, heureux. Et puis, à partir du moment où la guerre s'est instaurée, ça a été, un changement radical. Vous êtes quand même un enfant de la guerre, finalement.
Ah, complètement. Et c'est quelque chose qui est, qui n'est pas apparent, parce que cette guerre-là, contrairement à une guerre de tranchées, qui a été tout aussi, même beaucoup plus meurtrière, j'allais dire tout aussi meurtrière, c'est faux. Par rapport à une guerre de tranchées, par rapport à une guerre même atomique, lorsqu'on a lancé les bombes sur Nagasaki, Hiroshima, cette guerre était insidieuse. C'est-à-dire qu'en fait, on était en état de guerre, mais il n'y avait pas une opposition frontale au niveau des civils entre un clan et un autre. C'était un harcèlement permanent, une peur de l'attentat omniprésente et une qualité, finalement, de relation entre les gens qui s'en trouvaient altérés.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a
fait... Votre livre ?
C'est ça qui m'a fait créer la fiction du livre, c'est-à-dire de voir que dans les familles humaines, et je parle de famille humaine, la famille comme premier cercle de proximité, la communauté dans un cercle élargi, l'État dans un cercle encore plus grand, dans toutes ces familles auxquelles on appartenait, les tensions sont apparues. D'ailleurs, on le voit bien, pas seulement en Algérie, mais même sur le territoire français, sur le territoire, pardon, métropolitain, français qui plus est, sur le territoire métropolitain où la fragilité de la 4e République a été complètement, dynamitée par le problème de l'Algérie.
Est-ce qu'il y avait des relations, est-ce que vous avez des relations avec les petits arabes algériens, les musulmans, on disait les musulmans d'ailleurs, je vous signale.
À l'époque ?
Oui.
Bien sûr,
ouais,
bien sûr. Alors, l'enseignement, pour autant effectivement qu'il était laïque, regroupait une majorité, on va dire, de pieds noirs, mais avait également... en plus faible partie, mais avait également des Arabes qui venaient. Et d'ailleurs, à partir de 1956, nous avions à l'école primaire, parallèlement au français qui était la langue, effectivement, de travail, nous avions des cours d'arabe, tous. qui était une heure par semaine, mais dans laquelle il était important quand même aussi de s'inscrire.
Oui.
Parce qu'en fait, la majorité de la population était musulmane. Oui. Voilà.
Il vous en reste quelque chose ? Oui, vous étiez jeune.
Il me reste une comptine, une récitation qu'il fallait apprendre par cœur, mais j'avoue que j'en saisissais mal le sens, parce qu'en fait, ce n'était pas notre priorité. Et puis, il faut se mettre aussi à la place de ceux qui vivaient ça. C'est les attentats. Ça faisait naître aussi du ressentiment,
oui,
et pas forcément de l'intérêt culturel.
Oui, tout à fait.
Mais inversement, la divergence des cultures pouvait être utilisée comme un alibi pour creuser un fossé entre les communautés.
Oui. Voilà. Ça, vous l'avez senti à cette époque ?
Très nettement.
Ouais.
Très nettement. D'ailleurs, je vous disais hors antenne que pour moi, le roman, dans sa traduction de fiction, était plus forte que la réalité dans la mesure où elle racontait une histoire qui était possible. Mais dans cette histoire-là, j'ai mis beaucoup de choses que j'ai vécues, retraduites, réaménagées, bien sûr, mais qui ont un impact encore à cette époque sur moi, puisque effectivement je les ai redéposés en mémoire, en souvenir.
Ouais. Donc évidemment, je précise, je le dirai encore à la fin de l'émission, ce livre donc c'est les Caroubes de Mostaghanem, Ghanem, c'est publié chez l'Armatan, c'est un livre qu'on peut trouver entre autres à la librairie L'Esperluette à Chartres. Il y a la déclaration d'indépendance et le départ des Pieds Noirs. Est-ce que vous vous en souvenez ? Vous avez un souvenir, j'imagine ?
Alors là, c'était le sauf qui peut. Hein. Le sauf qui peut, parce qu'en fait, jusqu'à très tard, les discours du général de Gaulle, le général de Gaulle est venu à Mostaghanem. J'étais sur les épaules de mon père pour l'écouter parler. Et c'est un élément que je reprends effectivement dans le livre.
Oui, il faut être, juste pour nos auditeurs, parce qu'il y a peut-être des jeunes auditeurs, le général de Gaulle est venu et a promis finalement donc au Pieds Noirs, on va dire, donc, que eh bien, l'Algérie resterait française, hein, il faut le dire.
Oui, oui. En partant de Mostaghanem, il a dit vivre. Il a d'abord remercié effectivement la compréhension des Français qui l'acclamaient comme un messie. Et il a prôné effectivement l'entente, le partage, mais à la fin de son discours, il est parti et est revenu vers le micro pour dire « Vive l'Algérie française
oui. !»
Voilà. Alors, c'était à double sens. Enfin, c'est ce que j'essaye aussi de montrer dans le roman, c'est que « Vive l'Algérie française !» On peut le comprendre comme je veux que l'Algérie vive et qu'elle soit française.
Oui.
Mais on peut le comprendre aussi comme j'espère que vivra le plus longtemps possible une Algérie française.
Oui.
Ce qui est tout à fait différent.
C'est différent, oui.
Et comme les éléments de sens poussaient tous les Pieds Noirs à se rattacher à l'espoir qu'il représentait comme sauveur de la France, il n'y a pas eu photo sur l'interprétation qui a été faite. Et c'est une interprétation finalement fort logique.
Oui, tout à fait. Oui, on se doute que le général de Gaulle savait ce qu'il disait en disant « Vive l'Algérie ». Alors donc, le voyage, la traversée, les jours qui ont précédé le départ
Alors,
de vos
moi,
parents,
je...
comment ça a été vécu ?
Alors, si j'interroge vraiment mon souvenir par rapport à mes parents m'ont caché jusqu'au bout le fait qu'ils me mettraient dans un avion pour m'envoyer quelques semaines, 3 semaines ou 4 semaines avant eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même au lycée, et à ce moment-là j'étais en petite classe mais au lycée, l'insécurité de déplacement pour y aller était réelle. Il y avait des menaces qui se renforçaient également par le fait que là, il y avait deux fronts au moment du départ. Il y avait le front du FLN qui continuait à maîtriser sa stratégie de peur, à la disséminer avec les attentats. Mais il y avait aussi l'OAS qui faisait également des attentats contre des Français qui étaient soit des coopérants, on va les appeler comme ça, soit des gens qui s'affichaient contre eux, contre l'idée de l'OAS. Donc,
ça crée là, un climat d'insécurité absolue.
Alors là, c'était l'insécurité, c'était pratiquement un climat de guerre civile. Voilà. Et on avait des exemples concrets que certaines personnes avaient été éliminées dans un irrespect du corps absolu, quoi. Il fallait pas non plus parler de partir parce que, comment dire, on avait le risque, par le bouche à oreille et par des réseaux qui ne restaient pas, je dirais, connus ou tangibles, que l'information arrive à des oreilles qui n'en apprécient pas finalement le bien fondé. Ouais. Voilà.
Le soupçon était partout, quoi. Finalement, les murs avaient des oreilles.
Absolument.
Et on parlait le moins possible.
Et c'est pour ça que finalement, ça aussi c'est dit dans le bouquin, la guerre, à la guerre extérieure se couplait une guerre implicite des relations. Et même dans l'école, même à l'école, il y avait des clans qui se formaient. On était soit dans un clan, soit dans un autre. Et si on ne faisait pas partie d'un clan, on était un traître. Ouais. Donc on était un traître à partir du moment où on avait un avis différent de celui de la guerre.
Ouais. Alors quand vous êtes arrivé en France, donc j'imagine vous et puis ensuite vos parents, puisque vous n'avez pas fait le voyage ensemble, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes arrivé où en fait alors ?
Alors je suis arrivé chez une tante qui était la sœur de ma mère et qui était en Normandie à Alençon.
Passer de Mostaganem à Alençon, ça doit être dur, non ?
Bah, surtout que pratiquement... je m'y attendais pas du tout. Je me suis pas préparé à partir. Je suis parti. Mais là encore, le problème de la dureté s'est posé à l'arrivée de mes parents lorsque ma tante, qui nous a hébergés un moment, a dû, par son activité, devoir nous demander de trouver un logement. Donc on a été affecté dans un HLM. Mais comme mes parents n'avaient rien rapporté qu'une seule valise dans laquelle ils avaient mis ce qu'ils avaient pu, moi je me rappelle être resté quand même un bon moment dans une maison vide à travailler mes leçons, mes cours sur le carrelage.
Sur les genoux, sur
donc,
le carrelage.
Oui. Sur le carrelage, allongé sur le carrelage pour avoir une...
Ah, c'est dur quand même ça.
Alors, ça aussi, je l'exprime dans l'épilogue, parce que j'aborde aussi... Mon livre ne couvre pas toute la période jusqu'à 62. J'estime que finalement... En 59, tout était joué. Donc, ça couvre la période 54-59, où effectivement, les racines du mal se sont installées. Voilà. Et donc, pour en revenir à Alençon, lorsque mon père n'avait pas de travail, ma mère n'avait pas de travail, il a fallu prendre ce qui se présentait. Et cette réalité faisait complètement écho à, comment dire, au nomadisme dont on avait peur, cette fois, mais en tant que communauté non pratiquante, certes, mais comme communauté, et qui a fait l'objet de beaucoup d'incompréhension, parce que je pense que les Français de France voyaient les Français d'Algérie un petit peu comme des étrangers. Et quand on voit quelqu'un comme un étranger et qu'on reste au pied de cette image d'étranger, on est au moins méfiant et on peut être, dans le pire des cas, particulièrement xénophobe.
Ouais. Ouais, 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 bien sûr. Oui, j'ai des souvenirs, moi, personnels, dans une petite ville de 13 000 habitants, enfant des familles de pieds noirs, notamment dans l'HLM où on vivait, une famille qui était une famille amie. Mais on savait, effectivement, oui, on ne disait pas les rapatriés. D'ailleurs, les pieds noirs, c'était un peu des Arabes.
Mais oui,
pour les Français, c'est le souvenir que j'en ai.
Ah bah écoutez, lorsque je me suis marié avec mon épouse, parce qu'il a fallu, je suis rentré dans une famille qui était très croyante au point de vue de son catholicisme. Lorsque je suis rentré pour la première fois dans cette famille que mon épouse m'a présentée, il a fallu que je rectifie des représentations, parce qu'en fait, on voyait l'Algérie comme une terre, on confondait l'Algérie et le Sahara. Donc la question se posait de savoir effectivement comment on pouvait construire des maisons dans le sable, déjà. Bon, c'est gadget et la famille était suffisamment intelligente pour comprendre et immédiatement la représentation fausse qu'elle avait de la réalité. Mais ça veut dire que finalement, le mode d'information sociologique qui passerait par les médias est loin d'être suffisant. Il y a beaucoup de choses qui se font par la confrontation à l'intérêt de l'information. Voilà.
Gabriel, merci. On arrive vraiment au terme de cette émission. Je suis obligé de faire très très vite. Je vous rappelle que votre livre s'intitule « Les Caroubes de Mostaganem » publié chez L'Harmattan et qu'on le trouve dans toutes les librairies du département, singulièrement à l'Esperluette, pour rester chartreux-chartrin. Merci Gabriel.
Merci de votre accueil.
Et merci à Simon en régie.
فرس يا عيالها نوست حمار أنس قوم ذي ثور في تعسر أنس قوم ذي ثور في تعسر أوه كدلاته أوه كدلاته Yeah.